trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissière est avec nous, le président d'Ecouti GPS. Bonsoir Gilles.
Bonsoir Grégoire.
Nuno Texera nous accompagne, directeur analyse et stratégie de Vega IS désormais. Bonsoir Nuno.
Bonsoir Grégoire.
Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver et d'accueillir même Jean-François Fossé également à nos côtés ce soir. Bonsoir Jean-François. Vous êtes le directeur de la gestion multi-actif d'OFI Invest Asset Management. Jean-François, commençons par le marché américain. Scott Bessent nous dit que les corrections sont saines, que la correction de 10% du S&P 500 à laquelle on a pu assister ces dernières semaines est saine et qu'il n'est pas inquiet sur la situation des marchés financiers. Scott Bessent, le secrétaire du Trésor américain qui s'exprimait à la télévision ce week-end. Comment est-ce que vous interprétez les propos du secrétaire du Trésor américain et en tant qu'investisseur ou gestionnaire d'actifs, qu'est-ce que ça implique comme décision ou non, d'ailleurs, à ce stade, quand on a vu le marché américain sur un indice large comme le S&P reculer de 10% par rapport au sommet de février.
Oui, effectivement, 10%, ça commence à être une baisse un petit peu matérielle. Maintenant, si on recadre un peu avec l'historique des baisses qu'on a généralement sur ce type d'indice, des baisses de 5 à 10%, c'est à peu près, en termes de fréquence, 3 à 4 fois par an. Donc on se rapproche plus des 10-15. On tombe sur quelque chose comme une fois par an. Donc déjà, ça fait quand même appel au fait que si on veut être un peu opportuniste par rapport à un horizon un peu long terme, parce que c'est quand même une classe d'actifs de long terme, c'est déjà quelque part une opportunité hein, quand on est sur une fréquence d'une fois par an. Pour la fois un bear market, hein, donc ouais, une performance supérieure à avoir un affichage négatif de plus de 20%, là, on est sur une fréquence qui est 10 fois supérieure au premier chiffre que je donnais. Donc, si on attend des bear markets pour investir sur le marché action, on risque d'être en retraite avant.
Ouais.
Je trouve qu'en termes de ce point de vue-là, ça devient relativement attractif. Après, il faut intégrer effectivement le contexte dans lequel s'opère cette baisse. Et de mon point de vue, et aussi c'est un peu le point de vue qu'on a chez OFI Invest, c'est un peu consécutif à tout le bruit qui a été généré par la politique de l'administration de Donald Trump. Et pour l'instant, sur les chiffres économiques réels et aussi sur les résultats des entreprises, on peut dire qu'on est quand même assez loin du bruit qui a été généré, quoi.
Donc ça veut dire qu'il y a quand même encore un socle qui paraît suffisamment solide pour l'investisseur, sur lequel l'investisseur peut s'appuyer pour effectivement revenir ou prendre à nouveau position sur ce marché américain aujourd'hui, Jean-François.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est de regarder qui a vendu dans cette baisse, notamment du fait qu'on part, il y a eu un contexte qui était assez propice aussi à finalement cette baisse, c'est qu'on partait d'un environnement où déjà beaucoup de monde était très investi sur le marché américain. Donc dès qu'il y avait un petit grain de sable qui rentrait dans le narratif de l'exceptionnalisme américain, forcément, potentiellement, on s'exposait à des ventes qui allaient arriver. À ce stade, nous, ce qu'on constate avec les prestataires de recherche avec qui on travaille, c'est que c'est principalement des gestions type systématique qui ont été à la manœuvre dans la baisse. Et elles ont énormément réduit leur position longue sur le marché américain. Ouais. Ceux qui sont plus investis pour des raisons fondamentales de long terme, type des acteurs comme moi, des gérants d'actifs,
ils ont pas bougé.
Eux restent quand même très investis sur le marché. Donc après, il faut se poser la question, quelque part, qu'est-ce qui ferait que des gens comme moi se mettraient à vendre, je dirais assez massivement, le marché américain. Il faudrait déjà que j'ai un contexte macro qui, dans les faits, soit beaucoup plus en ligne avec une récession américaine. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on y soit. Mais néanmoins, c'est un facteur à conserver dans son radar. Il y a aussi toute la partie plus micro au niveau des entreprises américaines. Il n'y a pas si longtemps que ça, on trouvait que c'était génial les valeurs technologiques.
Ah bah.
Elles ont pas mal décoté.
Elles sont en bear market. Les Mag 7, en tout cas, elles ont baissé. Le groupe des 7 a baissé de plus de 20% par rapport au
titre. Je pense que le prochain trimestre qu'on va avoir, donc c'est pas tout de suite, en termes de narratif, ça va pas jouer immédiatement, mais ça va être une force de rappel dans les 3-4 prochains mois. Il faut l'avoir en tête aussi. Je pense que quand elles vont publier, on va être loin d'une catastrophe telle qu'on a eue en termes d'action sur les prix, quoi.
J'entends.
Donc pour moi, qui me permet de rester relativement optimiste et trouver en tout cas, dès qu'on a un horizon assez long, d'être plutôt à renforcer nos positions, c'est que la macro, pour l'instant, elle tient convenablement. Même si elle s'affaiblit un petit peu, c'est pas très grave. La micro des entreprises, je pense que ça va être une force de rappel d'ici un bon trimestre.
C'est vrai que le ralentissement macro-américain, on avait oublié ce que c'était. Ça faisait à peu près 2 ans, je pense, que l'économie américaine n'était jamais repassée en dessous de son potentiel. Hein. Trimestre après trimestre, on avait une économie américaine qui évoluait toujours au-delà de son potentiel. Le premier trimestre de cette année 2025 pourrait marquer effectivement une petite rupture par rapport à ça. On verra quel est le chiffre de la croissance américaine au terme du T1, mais il sera sans doute inférieur peut-être au potentiel de l'économie américaine. Nuno, sur ces considérations, oui, force, faiblesse, alors de l'économie américaine, et qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur quand ce marché américain, qu'on voyait invulnérable il y a encore quelques mois, c'était le one-way trade absolu. Bon, un peu de doute est venu quand même s'instiller dans cette idée-là.
Oui, c'est un peu la fin de l'exceptionnalisme américain, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne voyait aucun scénario qui puisse faire dérailler l'économie américaine. Et puis finalement, une forme de peut-être de dogmatisme du côté de l'administration Trump fait que on n'est plus tout à fait sûr que ça reste un long fleuve tranquille. Ça ne veut pas dire non plus que l'économie va s'effondrer, qu'on aura une récession, mais ça veut dire que jour après jour, semaine après semaine, il y a du doute qui s'installe parce que on a des messages qui sont quand même assez contradictoires. Une politique sur les tarifs qui est un peu de stop and go, donc c'est compliqué pour un agent économique, pour une entreprise, surtout celle qui consomme beaucoup de produits importés, qui peuvent être touchés par des droits de douane, de savoir à quoi s'en tenir. On peut avoir aussi des hésitations de la part des consommateurs. Donc, a priori, on se dit un peu plus d'inflation, un peu plus d'incertitude dans les comportements, ça devrait donner moins de croissance, et c'est ce qui semble quand même se refléter un petit peu dans les dernières statistiques. Pour autant, effectivement, je partage l'avis de mon collègue, on n'est pas dans un scénario où on puisse prévoir avec une probabilité élevée une récession à venir aux États-Unis. C'est vrai qu'on n'a plus tout à fait le Fed put ni le Trump put.
Et on ne sait pas trop où ils sont, oui.
On a l'impression que Trump, pour l'instant, se désintéresse un peu, contrairement à son premier mandat, de ce qui se passe sur le marché. En tout cas, ses lieutenants semblent minorer un petit peu le souci. 10% de baisse, ça n'a rien de dramatique, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que ça concerne pour l'instant une partie du marché qui avait probablement besoin de respirer de toute façon, qui avait beaucoup profité de l'élection de Trump à partir de novembre. Et donc, il y a d'autres opportunités aussi sur le marché américain, heureusement, et il faut rester positionné. Pour autant, je pense qu'il y a quand même une petite prime de risque en ce moment. On a plutôt envie de jouer un peu plus l'Europe.
Bien sûr, on va y venir.
C'est clair que... on est revenu quand même sur les valos du Nasdaq proche des moyennes historiques. Donc ça, c'est intéressant. Mais tant qu'on n'a pas ce moteur-là, et on le voit aujourd'hui encore, où le marché est un peu en positif, mais le Nasdaq est encore légèrement négatif, on voit qu'on est encore dans une situation de défiance un petit peu vis-à-vis de ces valeurs.
Qu'est-ce qui fait que le risque de récession ou la probabilité d'une récession, on a vu quand même sans doute cette probabilité remonter un petit peu ces derniers temps, ne serait-ce que du fait de l'incertitude générée par Donald Trump. Qu'est-ce qui fait que ce risque reste maîtrisé, contrôlé et que ce n'est pas un risque central aujourd'hui pour vous ?
Tout dépend du comportement des ménages, parce que c'est quand même le ménage américain qui va...
qui, à la fin de la journée, dicte le rythme de l'économie américaine.
Non, ce qui est vrai, c'est qu'on commence à avoir quand même des licenciements qui augmentent, ne serait-ce que dans le secteur public, puisqu'il y a ce fameux programme Dodge qui est quand même un peu inquiétant pour une partie de la population. Même si les gens ne sont pas directement touchés, ils peuvent s'en inquiéter. Et encore une fois, les prix des produits, on a vu que c'était un des thèmes de campagne de Trump. Il avait promis beaucoup de bonnes choses. Finalement, les choses risquent de se maintenir dans une situation qui inquiète le consommateur. Donc, encore une fois, c'est lui qui va décider. Et on verra si, à la fin, on arrive à... Nous, on table quand même sur une croissance américaine cette année en dessous des 2%.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc, ce n'est pas dramatique, mais ça commence à peser.
Il y a un peu de ralentissement à intégrer quand même, peut-être un peu plus de ralentissement à intégrer que prévu sur cette économie américaine à ce stade. Gilles, comment est-ce que les modèles d'equity GPS notent aujourd'hui le marché américain après cette correction de 10%?
Et ben, malgré la correction, on est encore seulement à 1 sur 10.
Ouais.
Donc,
rappelez-nous ce que ça veut dire,
Ça veut dire qu'en moyenne, par rapport à l'historique, un historique assez long, on est dans les 10% les moins favorables pour investir sur le marché américain. Et quand on était dans ces zones-là, plus ou moins à 25, on a eu dans le passé des performances légèrement négatives. Légèrement négatives, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe. Mais ce qu'on peut observer, c'est que malgré la baisse des cours, en fait, notre rating ne s'est pas amélioré. Et y a plusieurs raisons à ça. Une de ces raisons, c'est quand même une pression à la baisse sur les prévisions de résultats des entreprises.
Ça aussi, c'est nouveau. Parce que ça fait deux ans qu'on n'arrête pas de réviser à la hausse les perspectives bénéficiaires aux États-Unis.
Mais je dirais qu'il est, en particulier sur certains secteurs où on a des marges qui sont historiquement gigantesques par rapport aux États-Unis et puis énormes par rapport au reste du monde, on ne peut pas avoir une augmentation de l'incertitude, une hausse du chômage, une hausse des tarifs et des questions sur pas seulement l'emploi des fonctionnaires, mais sur l'activité des entreprises qui partiellement font du business avec le gouvernement américain.
Il y a des effets indirects, d'accord, sans doute.
Donc là, et donc tout ça, il est trop tôt pour le voir dans la parution des chiffres qui sont du passé. Hein. Mais quand on anticipe un petit peu tout ça, et via le prisme du sentiment des consommateurs, du sentiment des employés, et des sentiments des employeurs, on ne peut pas considérer que ça ne puisse pas se pincer par rapport à des anticipations préalables. Donc là, ce n'est pas extraordinaire. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on a eu quand même une augmentation des probabilités de récession par rapport de la part de certains grosses banques américaines qui ne sont pas un scénario central encore. Mais honnêtement, le scénario central, c'est jamais...
C'est rare qu'on nous dise que le scénario central est suivi d'une récession, je vous
jamais.
L'accorde.
En fait, ce qui se passe, on a une récession, on le sait après que le marché est baissé. Voilà, que ce soit bien clair. Alors, les récessions, ça arrive tout le temps, d'accord ?
Tout le temps, non,
si,
mais ça arrive de temps en temps, oui.
Il y a 15% du temps sur les marchés actions où on est en bear market, largement lié à un dégonflement des espérances économiques, un dégonflement d'un cycle de crédit ou un choc externe, etc. Ça fait partie de la vie des marchés actions. Donc, en effet, il ne faut pas avoir peur de cela nécessairement. Mais ça fait toujours partie des possibles. Et là, il nous semble qu'à ces niveaux de rating, ça ne laisse pas beaucoup de place.
Je comprends.
Au global, à une poursuite des surprises ou d'une évolution négative des anticipations.
Question d'horizon de temps aussi, j'imagine.
Complètement. Il y a un horizon temporel. Plus on a un horizon très long et moins on peut craindre des corrections de marché.
Qu'est-ce que vous comprenez, Gilles, de la mise en exécution de la stratégie Trump, ce qu'on appelait les Trumponomics il y a encore quelques temps. On est à plus de 50 jours d'exercice du pouvoir. Il y a quand même quelques personnages du cabinet qui se distinguent sur le plan économique, Scott Bessent, Howard Lutnick, qui sont là aussi des membres importants du cabinet. Trump nous parle beaucoup de tarifs. On a des tarifs, peut-être pas autant que ce dont on en entend parler, mais il y a quand même déjà, en tout cas en première intention, des tarifs et une application de cette stratégie tarifaire.
Oui, alors la mise en pratique est quand même un petit peu plus sévère que ce qu'on pouvait anticiper avant, où on était tous teintés d'un Trump numéro 1, où il y avait plus d'aboiements et moins de morsures.
Ouais.
À force de crier au loup, comme tout le monde anticipait ça, il est obligé d'aboyer plus fort et puis de mordre un peu plus pour être crédible. Si c'est que ça, ça pourra peut-être aller. Mais par contre, si on a quand même l'impression d'une situation non stabilisée en termes de programme, que selon l'orateur, les coupes budgétaires pourraient être ceci ou cela. D'accord. Ils ont des montants complètement, enfin, extraordinairement importants. On est loin quand même d'une forme de progressivité, de modération européenne. Ou ailleurs, hein. Moi, ce que j'observe en Chine, c'est que les choses sont très progressives, relativement bien balisées. Et là, on a quand même une situation où il y en a une réalité qui est un petit peu plus que vibrante et ouvrière, parfois un peu chaotique.
Ouais.
Et ça, c'est pas très bon pour l'activité économique. À moyen terme,
Mais ça sert à un projet de long terme ? Vous comprenez ça ?
Ah ben,
qui est du chaos à court terme, si c'est dans l'idée d'un grand projet de long terme, c'est un peu ce que l'administration Trump nous vend aujourd'hui.
Oui, mais enfin, avec quand même une situation chaotique, on a quand même l'impression que selon à qui on parle, c'est celui qui parle le plus fort. Qui est à l'oreille du président, et puis ça peut changer le lendemain, une fois qu'on aura parlé d'autre chose et qu'on remettra des sujets sur la table. Donc on n'a pas l'impression d'un plan de moyen terme clairement identifié, je dirais à l'allemande, à la Rhénane,
hein,
pour faire une comparaison intéressante. Et du coup, oui, sur le long terme, traiter, s'occuper du sujet de la dette, de l'évolution de la dette américaine, c'est bien, mais est-ce qu'il faut le faire de façon aussi brutal, non maîtrisé et avec son corollaire de crainte quand même et de d'inconfort au moins sur une partie de la population américaine.
Oui, bien sûr. Bon, Jean-François, sur la stratégie Trump, là, qu'est-ce qui est sur quoi on s'est trompé, sur quoi le marché peut-être a changé d'avis entre guillemets, qu'est-ce qui diffère de Trump 1.0 on n'a pas l'impression d'être tout à fait dans la même situation. Hein.
Non, effectivement. Alors déjà, Trump 1, il était, c'était déjà la première version, hein, donc forcément il y a la découverte.
Oui.
Donc quand on...
même pour lui, la découverte du pouvoir, quoi, c'est ça.
Donc, au début, on est à appréhender son environnement.
Ouais.
Peut-être que sur le Trump 1, la partie fiscale de son programme a d'abord eu un poids plus important et ensuite est venu les mesures commerciales qui étaient quand même très ciblées sur la Chine. Voilà, on avait vraiment l'impression d'avoir ce combat Chine contre États-Unis avec derrière un challenge quelque part de passation de pouvoir entre deux grandes économies. Là, on est plutôt dans la version où déjà il a acquis une certaine maturité sur sa manière de faire et comment le faire. Et on sait que la politique tarifaire, c'est son domaine. Il peut y aller à coup de décret, donc il n'a pas besoin du Congrès là-dessus. Donc c'est assez rapide. Le cabinet travaille pour lui. Et de manière à éviter quand même qu'il y ait une ligue qui commence à se former contre toutes ces tentatives, parce qu'il commence à tirer sur tout le monde
à peu près
au même moment. Donc le risque, c'est à faire durer ces choses-là. On se retrouve à avoir une ligne d'intérêt commun qui commence à se construire contre lui. Donc des petits qui se rassemblent avec des petits, voire avec des moyens, ça commence à faire un gros bloc. Donc là, il va commencer à avoir une base de négociation qui peut potentiellement être moins favorable. Donc il a intérêt quand même à tirer fort tout de suite, être dans une posture très agressive de manière à plier l'adversaire très tôt. Et depuis quelque part de passer d'adversaire en adversaire assez vite de manière à éviter cette ligue potentielle.
Cette coalition, quoi. Une coalition face à lui.
Et ensuite, le volet fiscal, lui, de toute manière, il va prendre du temps puisqu'il y a besoin du Congrès pour se mettre en œuvre. Et quand on voit le volet fiscal, le Trump Act qui avait été fait en 2018, du début jusqu'à la fin, il avait fallu à peu près une dizaine de mois. Donc si on l'a, de toute manière, ce sera plutôt pour la fin d'année.
Ouais.
Donc on a encore une petite période qui peut être assez lourde encore de ce moment-là. Mais dans la posture qu'il a prise, je pense qu'il a besoin d'aller vite et fort et dur. Ouais. Après, derrière, c'est de la négo. Donc soit il arrive à récupérer ce qu'il peut récupérer, soit derrière, ça risque de finir avec des portes qui se ferment.
Ouais, ouais. Bon, on verra. Hein, le 2 avril étant une autre date importante quand même, notamment pour la stratégie tarifaire, avec un rapport du Trésor sur les échanges commerciaux américains et la capacité à ce moment-là de Donald Trump d'implémenter de nouveaux tarifs. Alors, il appelle ça des tarifs réciproques. On verra ce qu'il en est, mais c'est la promesse en tout cas réitérée à nouveau à partir du 2 avril prochain. Nuno, vos commentaires bien sûr, et puis ce que ça implique pour le policy mix dans son ensemble, c'est-à-dire quand on intègre également la réserve fédérale américaine dans ce jeu-là, puisqu'on a rendez-vous, les marchés ont rendez-vous cette semaine avec Jérôme Powell et la Fed, qui est resté un petit peu observateur de la situation jusqu'à présent.
Oui, alors c'est vrai que d'abord, dans Trump 2, on a un cabinet, on va dire, qui est beaucoup plus effacé quand même que dans Trump 1, où finalement il découvrait un petit peu le pouvoir, donc il avait des contre-pouvoirs qui finalement ont peut-être rendu sa politique un peu moins agressive. Là, il lâche ses coups beaucoup plus, et surtout il les lâche sur ses alliés. Mmh. Et moi je suis quand même assez surpris de la réaction assez ferme hein, de pays comme le Canada, qui sont quand même importants en termes de commerce bilatéral. L'Europe également, qui peut-être à cause de cette perspective de désengagement de l'OTAN, finalement se dit on ne va pas se laisser faire. Mm-hmm. Et donc, moi, je trouve que ça crée plutôt plus d'incertitude, parce qu'on peut quand même rentrer dans une forme d'escalade sur les tarifs. Et donc, je comprends assez bien la Fed qui est un peu dans cet attentisme et qui ne devrait pas bouger, même s'il y a un ralentissement de la conjoncture au premier semestre. On ne les voit pas bouger au mieux avant juin, et peut-être même
peut-être plus
seulement
tard,
s'il y a un ralentissement vraiment très marqué.
Ah ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Fed reste prise en tenaille entre le risque inflationniste toujours.
Ça peut perdurer, quoi, malgré
tout. Je comprends.
Même dans une économie un peu affaiblie.
Ah ouais. Bon. Et donc le put de la Fed, là, puisqu'on parlait des où sont les protections de marché, le put de la Fed, il n'est pas là pour cette semaine. C'est pas là qu'on l'attend.
Alors
maintenant.
Les marchés commencent à anticiper deux, voire trois baisses de taux directeurs cette année. Ça nous semble quand même assez optimiste.
Ah ouais, un peu prématuré à ce stade sur la Fed, Jean-François. Je ne sais pas quelle est la position que vous défendez à ce stade chez OFI Invest.
La position qu'on défend, c'est effectivement que la Fed va être plutôt on hold avec le fait qu'effectivement il y a cette prise un peu en tenaille et côté BCE là pour le coup on a un peu remonté notre taux terminal du fait qu'elle a besoin d'être moins accommodante du fait de l'arrivée du package fiscal
en Allemagne qui sera voté
taux terminal inchangé on va dire côté Fed. Ouais. Et légère remontée côté
Banque Centrale Européenne.
Ce plan est très important parce que ça donne des marges de manœuvre à l'Europe.
Allons-y.
En termes de soutien,
bien sûr,
qui lui permettent d'être plus ferme avec les États-Unis, puisque c'est un peu comme pour la Chine, c'est-à-dire que voilà, un plan finalement qui va quand même aider la croissance de la zone euro et de l'Europe, et qui permettra du coup d'être beaucoup plus ferme avec les Américains.
Bon, allons-y sur le plan européen. De ce point de vue-là, Nuno, les marchés ont anticipé un peu, beaucoup déjà, des fruits que ce plan pourrait générer pour l'Allemagne en premier lieu, pour l'Europe demain. Parce qu'on parle de trajectoire, des programmes à 10-12 ans, hein, les infrastructures, la défense, on a tous bien compris que les dépenses allaient augmenter. Bon, reste à savoir, est-ce que la base industrielle est suffisante pour permettre de monter en capacité très très vite et s'affranchir au plus vite des F-35 américains. Enfin, il y a toute une logique de séquence aussi par rapport à ces plans européens. Et donc, à quel horizon est-ce que les résultats seront tangibles de ce point de vue-là?
Alors c'est vrai que les marchés ont anticipé en partie.
Hein. C'est leur fonction. Hein.
Ils n'avaient pas forcément anticipé le revirement aussi rapide du discours allemand après la fameuse entrevue dans le bureau ovale avec Zelensky, où là, tout d'un coup, il y a eu une prise de conscience de la majorité des grands partis allemands, à part l'AFD et les Linke, qu'il fallait faire quelque chose et le faire rapidement, c'est surtout ça. Et donc, je pense que ça a été effectivement un déclencheur d'une prise de conscience allemande et européenne.
D'ailleurs, on vote avec l'ancien Parlement allemand, on n'attend pas le nouveau. Hein. Et ça, c'est la vraie surprise, entre guillemets, le vrai coup politique de Merz.
Tout à fait. Et ça donne quand même une visibilité beaucoup plus grande au rythme de croissance qu'on peut attendre en zone euro, qui était quand même assez faible. Et ça pesait misait beaucoup sur les intentions d'investir en Europe.
Et ça change quoi dans le fond? C'est-à-dire que les valos des actifs européens pourront être plus élevés que les moyennes historiques qu'on a observées ces dernières années, depuis 15 ans? C'est-à-dire que le potentiel de croissance va être plus élevé? Ça change structurellement des choses?
Ça change. Alors d'abord, on risque d'avoir quand même des taux longs un peu plus élevés que si on n'avait pas eu tous ces plans. Hein. Il faut quand même financer malgré tous ces investissements. Une pente de la courbe des taux qui va être probablement plus marquée, même si la BCE réduit ses taux courts. Et puis effectivement, des valorisations qui, dans certains secteurs, peuvent quand même... On pense évidemment au secteur de la défense, hein, où on sent que beaucoup de sociétés de gestion sont en train de revoir un petit peu leurs contraintes en matière d'investissement sur le sujet. Et c'est assez logique, parce que ça fait partie de la souveraineté la plus essentielle d'un pays, qui est d'être capable de se défendre. Et puis tout ce qui est voté au niveau infrastructure en Allemagne, ça va au-delà de la défense, ça va aussi profiter au secteur de la construction, par exemple, et à des secteurs industriels qui vont pouvoir également bénéficier de tout le soutien à la transition écologique, par exemple.
Ça se reflète déjà dans des ratings Equity GPS ou
pas encore.
Cette histoire européenne nouvelle, Gilles?
Non, pas encore, parce que c'est, comme vous l'avez bien dit, ça va faire bouger les anticipations à très long terme. Et il faudra du temps pour que tout ça se mette en musique. Et nous, dans notre dans la partie sous-score de dynamique de perspective, on prend les évolutions à un an seulement.
D'accord.
Donc là, on peut penser que c'est absolument pas pris en compte. Donc aujourd'hui, on a entre 3,5 sur la zone euro. Alors ça peut paraître pas extraordinaire, mais enfin c'est beaucoup mieux que le 1.
Eh ben oui, c'est trois fois mieux,
premièrement. Deuxièmement, c'est associé en règle générale à des performances ultérieures moyennes positives. Ce type de zone de rating, hein, en tout cas dans le passé, ça l'a été. Et enfin, oui, si on a, et il semblerait que ce soit le cas, deux plans, mais massifs, majeurs, historiques...
Oui.
Absolument historique, et qui, comme c'est pas un hasard que ça vienne en Allemagne, hein, parce que l'Allemagne est une des plus grandes économies du monde, d'une part, mais en plus, c'est la plus grosse économie de notre ensemble de pays AAA+, qui sont les plus safe, les plus sûrs, et qui sont des berceaux pour le développement très favorable, pour le développement d'entreprises mondiales très saines. Et très efficace. Donc là, je dirais que c'est quelque chose d'absolument historique. Alors on sait pourquoi c'est arrivé. Et ça va changer complètement les choses. Et en effet, ça va augmenter sans doute à la fois la valorisation normative d'équilibre que les investisseurs devraient être prêts à payer pour les actifs concernés par... Donc, les actifs allemands en règle générale, et en particulier les sensibles, donc infrastructure, informatique, hein, tech en général, hein, parce que l'infrastructure intègre bien sûr la dimension numérique,
bien sûr,
sans compter l'aspect sécurité, cybersécurité, qui devient de plus en plus importante, et puis l'armement, et puis l'industrie en règle générale, les matériaux en règle générale. Et tout
mais
ça...
c'est un impact sur l'Allemagne en premier lieu.
Ah ben, en premier lieu,
oui,
parce que...
Oui, ça va être évident, hein, mais...
Oui, parce que de cet argent-là, on a beau dire, hein, mais ça va être Allemagne d'abord. Les Français espèrent en tirer parti à juste titre en matière d'armement, mais ça sera opportuniste d'une part du côté des Allemands, et puis deuxièmement, quand vous avez un environnement global géopolitique qui est en train de qui bouge, qu'est-ce qui vous dit que vous appuyez sur la France, vous n'aurez pas dans 5 ans un gouvernement qui aura un petit peu d'autres intentions en matière de parapluie nucléaire, en matière de coopération, etc. Quand vous êtes un Allemand, bon, donc ça veut dire que c'est quand même le jeu reste celui-ci, et à la fin, il n'est pas illégitime que pour des sujets de sécurité intérieure, tout le monde s'oriente vers des solutions domestiques autant que possible.
Ah ouais. Bon. Avec des capacités budgétaires très différentes d'un pays à l'autre.
Et ben voilà,
d'où revient à l'Allemagne et au AAA+, vous affectionnez.
Et puis pour moi, enfin, on a titré ce matin sur une note, quoi qu'il en coûte, acte 3.
Oui, bien sûr.
Hein, c'est aussi fort que Draghi, c'est aussi fort que
Macron-Merkel, mai 2020.
Macron-Merkel ou Sunak pendant le Covid.
Ah oui, d'accord. J'étais sur l'Europe.
Pardon. mais c'est absolument majeur et massif. Et les marchés, les investisseurs, ils anticipent au-delà du 3 mois, du 6 mois, du 9 mois, et surtout dans les circonstances actuelles. Donc pour moi, ça fait aucun doute que l'Allemagne, en particulier via sa dimension société moyenne, de taille moyenne, PME très spécialisée, très rentable,
va en bénéficier. On a vu le MDAX effectivement réagir. Le MDAX, c'est l'indice des valeurs moyennes en Allemagne. Comment on profite de ce momentum européen ? Déjà, est-ce que c'est un momentum de marché qui a du vent dans les voiles, qui peut se poursuivre au-delà de quelques semaines, quelques mois exceptionnels, effectivement, avec en plus, en contrepartie, une baisse des marchés actions américains. Donc un écart spectaculaire de ce point de vue-là.
Jean-François. Oui. écoutez. Historiquement, l'Europe en bourse, c'est un peu ce qu'est le PSG à la Ligue des Champions. C'est-à-dire que chaque année, quand on commence, on regarde la feuille de match, on se dit on va faire une super Ligue des Champions. Ouais. Et puis,
je n'avais jamais vu cette image, mais elle est bien. Elle est pas mal.
Et arrivé à la fin de l'année, souvent, on n'est pas dans les premiers. Ouais. C'est un peu ce sentiment-là à chaque fois qu'on veut jouer l'Europe. On se dit on a quelques belles valeurs, etc. Et résultat des courses, on n'y est pas. Néanmoins, cette année, bon, aussi le PSG apparemment aussi fait une bonne année, donc peut-être qu'effet corrélation faisant, on peut peut-être espérer d'avoir les deux. Mais l'Europe semble être un bon candidat sur les marchés boursiers pour cette année. Alors je suis d'accord qu'effectivement, d'un point de vue narratif, on a des éléments qui sont assez forts et qui peuvent tenir la distance plusieurs trimestres. Tout du moins pour régulièrement avoir de la nouvelle positive. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce narratif de marché est travaillé par les investisseurs. Donc au fur et à mesure, ça rentre dans les têtes et puis ça commence à être joué, pris par des vraies positions, au-delà du sentiment qui s'améliore. Et là, quand on regarde, déjà, on part d'une base ultra favorable. Faut dire que c'était un désert de positionnement l'an dernier, l'Europe.
C'était ininvestissable pour des investisseurs, pour certains investisseurs globaux. C'est dur de dire que l'Europe n'est pas investissable quand on est en Europe.
Complètement. Et c'est exactement ça. Les flux qui sont allés aux États-Unis. Donc finalement, ce dont on parlait au début, là, le fait qu'aux États-Unis, ça se calme un petit peu la croissance, les techs, on a plutôt envie de prendre nos bénéfices, etc. C'est un boulevard pour derrière jouer le nouveau narratif qui est en train de se créer en Europe. Donc ça, c'est un contexte qui est encore plus favorable pour voir émerger durablement, on va dire, pour au moins une année, ce thème-là. Donc nous, on a renforcé dans notre vue maison le positionnement sur les actions européennes. Dans les portefeuilles, on aime bien... On est allé sur l'Allemagne plutôt territoire des moyennes capitalisations.
Ouais.
Parce que c'est là où on a des gisements plus industriels et qui sont plus en faveur avec l'idée qu'il va y avoir des budgets qui vont être liés à de l'infrastructure et potentiellement derrière aussi il y a l'Ukraine qui arrive en bout de ligne.
Ah ouais.
En plus les mid-caps sont relativement peu chers.
Ah, on a beaucoup parlé du DAX qui battait record sur record. Quand on regardait le MDAX, on était beaucoup plus proche de l'atonie de l'économie allemande qu'on observe depuis plusieurs années. Alors, maintenant.
La macro n'est pas les indices.
Non.
Parce qu'il y a des biais dans tous les sens.
Ouais.
Donc la bonne performance du DAX, on le savait que l'an dernier,
exactement,
qui avait fait 50% dans ce domaine-là. Mais le MDAX qui est beaucoup plus varié.
Et,
de toute manière, depuis qu'on a l'annonce qui a été faite du package, ça a été essentiellement tiré la performance de cet indice-là sur le biais très industriel de l'indice.
Mmh.
Donc vraiment, c'est un univers qui est assez porteur pour cette thème-là, je pense, pour les l'année.
Ouais. Sur le plan des marchés obligataires, qu'est-ce que ça implique? Enfin, je veux dire, est-ce que le Bund, enfin, comment on traite le Bund désormais qui avoisine les 3%? Je grossis un peu le trait, mais est-ce que ça reste évidemment un actif refuge? Est-ce que c'est un actif un peu différent désormais avec la perspective de, je sais pas, d'un trillion d'euros de dépenses budgétaires sur les 10 prochaines années en Allemagne?
Alors, ce qu'on disait effectivement, c'est qu'il y a une prime de risque qui s'est constituée sur la partie assez longue du Bund. Donc ça, on l'a réintégré. Le marché l'a aussi mieux intégré depuis qu'il y a les nouvelle. Donc on part d'une base qui est déjà plus favorable. Ça reste un actif refuge dans le sens où si vraiment, même aux États-Unis, hein, je veux dire, si les États-Unis vont concrètement
en récession,
s'y dirigent. Ouais. Bah c'est quand même un poids lourd hein, dans l'économie mondiale, hein, donc je pense que le Bund va récupérer sa valeur d'actif refuge parce qu'il va avoir l'effet inverse qui va se passer sur la prime de terme. Donc on n'est peut-être pas là, mais en tout cas c'est un actif intéressant à avoir parce que quelque part, certes les taux ont monté, mais c'est pour des bonnes raisons. Et d'ailleurs on voit que quand les taux ont monté, bah, les actions européennes ont aussi monté. Donc c'est quelque part une rémunération supplémentaire qui est demandée côté obligataire parce qu'on va faire de la croissance. Ouais. Donc c'est de la... c'est bien employé quelque part.
Et à l'inverse, quand on a vu les taux américains baisser un peu, on a vu aussi les actions américaines baisser dans le même temps. Ce qui est intéressant aussi dans la remontée des taux en Europe, enfin dans la remontée du rendement du Bund allemand, on prend 50 points de base sur la semaine du 4-5 mars là, c'est que les spreads, alors tous les taux, toute la courbe euro a remonté, mais non seulement les spreads ne se sont pas écartés, mais même parfois ils se sont réduits de quelques points de base.
Oui, tout à fait, hein. Ça contraste.
Avec
ce qui s'est passé aux États-Unis, où les spreads, notamment sur le high yield, se sont effectivement plutôt écartés en corrélation avec les marchés d'actions. Et là, on a vu des spreads se tenir de manière remarquable. Il y a toujours de l'appétit pour le crédit. Et c'est vrai que le
marché... C'est un signal de confiance que le marché envoie à l'Europe, quoi.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'inquiétude sur l'inflation. Ce n'est pas, pour l'instant, le sujet majeur. Donc, on devrait avoir des taux relativement stables quand même sur l'ensemble de l'année, en tout cas. Et c'est intéressant d'avoir cette décorrélation entre le marché américain et le marché de la zone euro. C'est inédit, je pense, depuis très longtemps à ce niveau d'avoir des taux qui partent dans des directions complètement différentes.
Ouais. Donc, qu'on se demande si ça peut durer.
Oui, à un moment donné, ça va forcément se recorréler, en particulier s'il y a encore une fois un ralentissement marqué aux États-Unis qui devrait quand même emporter les taux plutôt à la baisse. Mais en tout cas, je partage assez cette idée d'aller plutôt sur le marché allemand. Les mid-caps sont intéressantes. On aime bien l'Espagne aussi. Et puis, la France, malgré tout, on a payé quand même assez cher en termes de décote, un peu comme l'industrie allemande d'ailleurs, où on disait le modèle économique allemand est ruiné. Donc, il ne faut surtout pas aller sur ce thème-là. Et on se rend compte que maintenant, c'est plutôt là qu'on a envie de le jouer. Et je pense qu'en France, on a également de belles opportunités, avec sans doute une électricité qui est plus compétitive qu'en Allemagne. Donc, on n'a pas ce sujet devant nous, en tout cas.
Bon, on a vu les contrats sur le gaz se détendre un peu, avec la perspective, effectivement, d'un cessez-le-feu Russie-Ukraine. Coût de l'énergie, c'est évidemment un paramètre essentiel pour nos économies et pour l'Allemagne notamment. Gilles, oui, effectivement, l'idée d'un cessez-le-feu Ukraine-Russie, ça peut encore remettre une couche de sentiments positifs sur l'Europe, ou est-ce que c'est déjà bien flagué, bien identifié? Donald Trump en a fait un programme d'une certaine manière. Donc, alors
c'est sans doute un positif. Maintenant, je pense que c'est pas le cessez-le-feu qui amènera une grande euphorie, mais c'est si possible une résolution à plus moyen terme.
Oui.
Même si c'est une option à la coréenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traité de paix, mais qu'il y a un gel et que ce gel des frontières est à peu près respecté, c'est-à-dire qu'il y a
une zone.
Une zone et puis des garanties très très fortes des deux côtés. Voilà, mais pour moi la problématique elle est à plus long terme.
D'accord. Donc c'est pas le cessez-le-feu, c'est pas le game changer qui a fait remonter l'Europe.
Alors, ce sera une bonne nouvelle, aucun doute. Hein, c'est une guerre d'un autre âge, c'est aberrant. Et la paix, il faut favoriser toute perspective de paix, bien sûr.
Bon, on verra ce qui ressort. Ce sera le coup de fil de la semaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine demain, au sujet évidemment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gilles Bazissière, président d'Equity GPS, Nuno Texera, directeur analyse et stratégie de Vega IS, et Jean-François Fossé, directeur de la gestion multiactif d'Ophi Invest Asset Management.